Et tout de suite, voici la revue de presse de Nasser Madji.
Le 6-9 de l'été, sur France Inter.
Bonjour Nasser.
Bonjour Eric.
Et dans la presse de ce mardi, les estropiés de Gaza.
Libération a rencontré quelques-unes des victimes de ce que les Palestiniens appellent la marche du retour. Ces manifestations qui durent depuis 5 mois près de la clôture de séparation entre Israël et la bande de Gaza ont fait environ 170 morts et des milliers de blessés touchés par les tirs militaires israéliens. À Rafah, à la frontière égyptienne, l'envoyé spécial du journal a notamment retrouvé Ala al-Dali, cet ouvrier du bâtiment de 21 ans, était un grand espoir du cyclisme en Palestine, sélectionné pour les Jeux d'Asie le mois prochain avant d'être touché par des tirs. C'était le 30 mars dernier. Ce jour-là, Ala al-Dali part à vélo à la rencontre de journalistes internationaux. Il veut profiter du départ du tour cycliste italien à Jérusalem pour interpeller la presse. Il craint de ne pas avoir l'autorisation de quitter le pays pour participer à sa compétition. Ala al-Dali n'a jamais trouvé les reporters. Il s'est approché trop près des barbelés. Il a pris une balle dans la jambe. Comme 69 autres personnes touchées, dont un enfant de 12 ans, il a dû être amputé en raison d'une blessure inhabituelle et dévastatrice, déplore Médecins sans frontières. Depuis, rumeurs et ressentiments alimentés par le Hamas s'intensifient dans la bande de Gaza. Les Israéliens utiliseraient des munitions de chasse, comme pour les animaux sauvages, rapporte une victime. À Libération, le porte-parole de Tsahal a nié catégoriquement. Quant aux ordres concernant les tirs dans les jambes, ils ont permis de limiter les morts, assurent les militaires. Concernant la gravité des blessures, l'ONG Breaking the Silence a une autre explication. On a enquêté et pour nous, il s'agit bien de munitions standards, explique Yehuda Scholl, son fondateur. Le problème, c'est qu'elles sont tirées par des fusils de sniper à haute vélocité conçus pour toucher à 800 mètres. Là, on est à 100, 200 mètres, alors la balle percute très vite. Est très fort. Ala al-Dali, lui, ne perd pas espoir. Les dirigeants palestiniens du Hamas et du Fatah ont très vite instrumentalisé son histoire, mais il a accepté sans hésiter les dons de plusieurs centaines de dollars des deux factions. Depuis, il a fait des recherches sur Internet. Une prothèse pour remonter sur un vélo, ça coûte 15 000 euros. Alors l'ancien champion de course sur route y croit. Il est maintenant à la recherche d'un sponsor.
Lui aura beaucoup œuvré pour la paix au Proche-Orient. Le journaliste israélien Uri Avneri est mort hier. Il avait 94 ans.
Oui, Ouest France, Courrier International ou L'Humanité notamment s'arrête ce matin sur le parcours de celui qui fut la première grande figure publique israélienne à rencontrer le dirigeant palestinien Yasser Arafat en 82. Une interview qui lui avait valu de très sévères critiques dans son pays. Pacifiste, membre de la gauche israélienne, Uri Avneri était un avocat résolu de la création d'un État palestinien. Né en 1923 en Allemagne, sa famille avait quitté le pays dès 1933 à l'arrivée au pouvoir des nazis. Une émigration vers la Palestine, alors sous mandat britannique. Dans des propos rapportés par le quotidien de centre-gauche israélien Haaretz, il expliquait « C'est la guerre de 1948 à laquelle j'ai participé qui m'a convaincu qu'il existait un peuple palestinien et que c'était avec lui que la paix devait être conclue d'abord et avant tout. » Plusieurs fois député, auteur d'une dizaine de livres, Avneri était allé très loin dans son engagement en jouant le rôle de bouclier humain en 2003 pendant le siège de la présidence de l'autorité palestinienne imposée à Ramallah par Ariel Sharon à l'époque. Il se considérait par ailleurs comme un patriote israélien. Sur son site internet, Courrier International rappelle qu'Uri Avneri a longtemps éprouvé un véritable amour envers Tsahal avant de se désoler, je cite, que l'armée du peuple ait été corrompue par l'occupation des territoires palestiniens.
Dans la presse de ce mardi, on trouve aussi les premières réactions en France après la mise en cause d'une figure du mouvement MeToo.
L'actrice et réalisatrice italienne Asia Argento, l'une des victimes d'Harvey Weinstein, est à son tour accusée d'agression sexuelle par un jeune comédien. Le New York Times, qui a révélé cette affaire, précise que l'acteur avait 17 ans au moment des faits. Asia Argento aurait accepté de lui régler 380 000 dollars de dédommagement. Le site 20minutes.fr donne ce matin la parole à Sandra Muller, qui est à l'origine en France du hashtag, du mot-clé sur Twitter, balance ton porc. Et Sandra Muller s'interroge. Je rappelle, dit-elle, que Weinstein a lancé des enquêtes sur toutes les femmes qui l'accusent, près d'une centaine. constituer des dossiers pour décrédibiliser les victimes. C'est le nouveau jeu. J'ai du mal à me dire qu'Asia Argento se serait autant engagée si elle avait fait quelque chose de mal. Et puis, Tarana Burke, la fondatrice de MeToo, a également réagi via Twitter. « Notre mouvement est pour tout le monde », précise l'activiste, car les violences sexuelles sont une question de pouvoir, donc cela ne change pas si leur auteur est votre actrice ou votre professeur préféré, quel que soit son genre. Tarana Burke qui, néanmoins, met en garde, les gens vont utiliser cette histoire pour discréditer le mouvement. Ne les laissez pas faire.
Dans les journaux, vous avez également repéré ce système D mis en place par des habitants d'une petite commune de Bourgogne, sans eau courante depuis 2 ans. Ce qui est en cause, c'est la nappe phréatique.
Oui, le village s'appelle Étais-la-Sauvin, 840 habitants dans l'Yonne, pas très loin d'Auxerre. C'est la préfecture, nous raconte Le Monde, et La Croix qui a dû prendre un arrêté. Interdiction d'utiliser l'eau courante à cause d'une pollution au métazachlore. C'est un pesticide employé pour le colza. Depuis 2 ans donc, c'est l'État qui régale. Chaque mois, 25 000 litres sont distribués aux habitants. On lave la salade à la cristalline, les enfants prennent leur douche à la cristalline et à l'EHPAD du coin, la soupe est faite à l'eau minérale. Un exploitant agricole du village raconte « La première fois qu'on a entendu parler de ça, je me suis dit que nous, les agriculteurs, allions sûrement avoir des problèmes, mais non. On nous a dit c'est en vente libre, hein, c'est légal, vous pouvez continuer à travailler. » Des analyses sont en cours pour trouver le coupable de cette pollution, mais en attendant, le maire a dû rattacher le réseau de son village à une fédération locale, la mort dans l'âme. Car Claude Macchia, le premier magistrat d'Étais-la-Sauvin, est une sorte de résistant. Promulguée en 2015, la loi NOTRe prévoit en effet le transfert de la compétence eau aux communautés de communes qui souvent délèguent à leur tour à l'un des 3 grands acteurs privés. Hors de question pour Claude Macchia qui veut la garantie d'une eau à un prix imbattable. Et puis, il y a l'aspect symbolique. Notre réseau, dit-il, date du début des années 60. Avant, on devait tirer l'eau du puits et on se lavait dans un grand bac à l'éponge. La première douche que j'ai prise, j'avais 14 ans. J'en aurais pleuré. Mon pépé et mon frère ont fait les tranchées à la pioche pour mettre l'eau ici. Et aujourd'hui, on veut tout balayer d'un coup de crayon. Sinon, depuis le nouveau branchement, l'eau est bien potable. Mais les habitants ne peuvent toujours pas la boire. En cause, cette fois-ci, les canalisations du village, trop anciennes et percées par endroits. Le maire de la commune, lui, devra bien finir par renoncer à sa souveraineté sur la gestion de l'eau. En 2026, le transfert de la compétence eau aux communautés de communes deviendra obligatoire.
C'était la revue de presse de Nasser Madji.